Vous écoutez, on lit pour vous.
Mieux comprendre la réalité des femmes handicapées par l'intersectionnalité, entretien avec la professeure Dominique Masson, un texte de Virginie Archambault paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Qu'est-ce que l'approche féministe intersectionnelle et comment peut-elle être utilisée pour analyser les oppressions que vivent les femmes handicapées? Tout d'abord, commençons par expliquer le mot « intersectionnalité ». Celui-ci a été inventé par une juriste féministe noire américaine du nom de Kimberly Williams Crenshaw, qu'il a utilisé pour la première fois dans l'un de ses articles en 1989. Elle y dénonce l'incapacité du système de justice américain à comprendre les discriminations vécues par les femmes racisées en lien avec des inégalités raciales et de genre qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Avant Crenshaw, plusieurs militantes féministes issues de milieux plus marginalisés, soit des femmes noires, vivant dans la précarité ou homosexuelles, avançaient que les revendications du mouvement féministe les rejoignaient, mais ne collaient pas suffisamment à ce qu'elles vivaient. Elles voulaient que leurs expériences de vie et les revendications basées sur celles-ci soient prises en compte. Ce n'était toutefois pas possible, puisque le mouvement féministe de cette époque basait ses revendications uniquement sur les inégalités de genre. L'intersectionnalité est donc issue de savoirs militants de la part de femmes de groupes marginalisés pour qui réfléchir en termes d'oppression de genre n'était pas suffisant pour comprendre, analyser et agir sur la complexité et la spécificité de leurs expériences. Ce terme permet d'analyser comment divers systèmes d'oppression fonctionnent ensemble pour produire des expériences spécifiques aux groupes sociaux marginalisés. Adopter une approche intersectionnelle permet de révéler que les expériences des femmes handicapées ne sont pas les mêmes que celles des hommes handicapés, ni les mêmes que celles des femmes qui n'ont pas de handicap. L'intersectionnalité permet ainsi de briser la vision homogène que l'on peut avoir du groupe que constituent les femmes et du groupe que constituent les personnes handicapées pour faire ressortir que les femmes handicapées ne vivent pas les mêmes réalités. Par exemple, plusieurs organisations telles qu'Action des femmes handicapées Montréal et Dawn Canada dénoncent depuis plusieurs décennies, le manque d'accessibilité des services de santé sexuelle et reproductive destinés aux femmes. Elles soutiennent également qu'elles sont plus susceptibles de vivre de la violence conjugale et sexuelle. Pourtant, les services de santé sexuelle et reproductive et ceux destinés aux victimes de violences sont souvent plus difficilement accessibles aux femmes handicapées. Utiliser l'approche intersectionnelle pour mieux comprendre les expériences des femmes handicapées ne se limite pas à essayer de voir les effets conjoints de l'oppression de genre et de l'oppression sur la base des capacités. Nous pouvons y intégrer d'autres questions. Dans le cas des femmes autochtones handicapées, par exemple, nous devons nous demander quel système d'oppression vient se joindre au genre et au capacitisme pour produire leur situation particulière. Ainsi, il nous faut examiner l'héritage du colonialisme dans la production genrée du handicap chez celle-ci. Il y a ainsi un travail à faire pour intégrer cette approche dans l'étude de populations opprimées à plus d'un titre. Les voix des femmes autochtones handicapées engagées dans la défense de leurs droits se font de plus en plus entendre à l'échelle internationale, notamment par le biais d'associations telles que le National Indigenous Disabled Women Association, NIDAWAN, NIDWAN, et le Indigenous Persons with Disabilities Global Network, IPWDGN. En nous intéressant davantage aux enjeux que vivent les femmes handicapées au Québec dans les dernières années, nous avons réalisé qu'il y avait très peu de données et d'écrits universitaires sur le sujet. Comment pouvez-vous expliquer ce phénomène selon vous? Tout d'abord, il y a le fait que la francophonie représente un petit bassin d'interlocuteurs et d'interlocutrices et de chercheurs et de chercheuses, comparativement au bassin de chercheurs et chercheuses anglophones ou qui publient en anglais. Également, la proportion de femmes handicapées ou sourdes qui accèdent aux études supérieures et à des postes de professeurs-chercheuses est plus faible pour des raisons d'oppression multiples. Il y a ainsi moins de chercheuses directement concernées qui s'intéressent à cette question, bien que cela commence à changer. Par exemple, ma collègue Véronique Leduc, du département de communication de l'UQAM, est la première femme sourde embauchée comme professeure-chercheuse dans une université au Québec. La sensibilité aux questions de genre constitue une autre raison, puisqu'elle est encore peu diffusée dans le secteur des études du handicap, de même qu'il y a encore peu de sensibilité aux questions du handicap en études féministes. Nous espérons que des chercheurs-chercheuses sensibles aux approches intersectionnelles viendront diversifier les études portant sur les personnes handicapées en y intégrant une préoccupation pour les inégalités de genre ainsi que pour les expériences des femmes handicapées, autochtones, racisées ou issues d'autres groupes minorisés. Le capacitisme étant un concept théorique grandement utilisé de nos jours, notamment dans le milieu des personnes handicapées au Québec, pouvez-vous nous parler de son évolution à travers les dernières décennies? Et pourquoi est-il pertinent à l'analyse de la réalité des femmes handicapées? Il y a une diversité de termes et de définitions utilisées pour décrire l'oppression vécue par les personnes handicapées. Le capacitisme, en anglais « ableism », est un terme dans lequel les organisations de personnes et de femmes handicapées se reconnaissent. Dans les années 70, le mouvement des personnes handicapées souhaitait rompre avec l'explication dominante des difficultés reliées au handicap à ce moment, soit le modèle médical. Essentiellement, ce modèle soutient que si une personne est incapable de participer à la vie sociale, de communiquer avec les autres, de se déplacer, d'occuper un emploi ou d'aller à l'école, c'est fondamentalement en raison de sa déficience. Les militants et militantes du début du mouvement des personnes handicapées vont remettre ce modèle en question en affirmant que c'est plutôt la société qui dresse des barrières et refuse d'accommoder leurs incapacités. Si ces barrières étaient abattues, elles pourraient contribuer autant à la société que les personnes sans incapacité. Le mouvement des personnes handicapées va donc mettre de l'avant l'idée que le handicap, c'est-à-dire pour eux les barrières, est social et qu'il est produit par un système d'oppression. C'est pourquoi nous voyons apparaître les mots « handicapisme », « validisme », « capacitisme » et plusieurs autres. Chacun de ces mots a plusieurs définitions. Certaines se concentrent sur les préjugés et les stéréotypes que subissent les personnes handicapées, tandis que d'autres se concentrent sur les discriminations vécues dans les relations interpersonnelles et les relations avec les institutions. D'ailleurs, en 2017, la militante et chercheuse Laurence Parent a publié un article sur le sujet dans le Canadian Journal of Disability Studies qui s'intitule Ableism, Disableism, on dit ça comment en français, qui s'intéresse à la manière dont ces termes ont été traduits et définis par plusieurs auteurs. Pour ma part, les réflexions qui m'ont le plus inspirée sont celles qui proposent de voir le capacitisme comme un système d'oppression fondé dans l'idée que notre société se fait des capacités qui seraient normales. Anita Silvers, une philosophe pionnière des études critiques du handicap, questionne cette idée de normalité en nous demandant, par exemple, qui a dit qu'il est plus normal de se déplacer avec ses jambes qu'avec un fauteuil roulant? Qui a dit qu'il est plus normal de communiquer avec ses cordes vocales qu'avec les mains? Pour la théoricienne Rosemary Garland-Thompson, lorsque la normalité est définie de manière étroite, elle donne de la valeur et des privilèges aux personnes dont les corps sont conformes à la norme, les personnes valides, au détriment des personnes qui vivent avec des incapacités. Selon ses autrices, le capacitisme comme système d'oppression ne se limite pas à des présupposés, des stéréotypes et des formes de discrimination. Pour elle, c'est toute la société, les représentations sociales, les relations interpersonnelles, les institutions, le cadre bâti, etc., qui est structuré sur les bases d'une normalité sans incapacité. Pourtant, nous disent-elles, la véritable normalité de l'expérience humaine, c'est que les capacités forment un continuum qui varie entre les personnes et elles fluctuent durant toute notre existence. C'est sur la base de cette conception large de la normalité et sur le respect des différences qu'il nous faudrait repenser l'organisation de la société. À travers l'étude que vous avez menée auprès d'Action des femmes handicapées Montréal, vous avez décrit comment la théorie de l'intersectionnalité a influencé la mission et l'identité de l'organisme. Pouvez-vous nous en parler? Action des femmes handicapées Montréal a été fondée peu de temps après l'organisation pan-canadienne Dawn Canada par Maria Baril et d'autres femmes handicapées qui trouvait important d'avoir une organisation au Québec. Parmi les pionnières de l'organisme se trouvaient non seulement des femmes handicapées blanches, mais aussi des femmes handicapées issues des communautés culturelles. Il y avait ainsi un terreau fertile à l'utilisation de langages déjà existants à cette époque, soit ceux de la double et de la triple oppression, et éventuellement de l'oppression multiple. Elle se questionnait donc déjà sur les relations entre différents systèmes d'oppression dans les vies des femmes handicapées. Lorsque j'ai mené ma recherche, l'intersectionnalité faisait partie de l'énoncé de leur mission, car elles s'y reconnaissaient, et cela permettait à leur organisation d'être plus inclusive. Elles pouvaient ainsi tenir compte de toute la variété des expériences des femmes handicapées, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur appartenance ethnique et religieuse, leur statut socio-économique et leur type d'incapacité. La diversité des expériences des femmes qui constituent leur organisation est ainsi reconnue et elles s'unissent dans leurs différences multiples. Cela demande toutefois de faire un travail afin de reconnaître comment certaines catégories de femmes handicapées, les femmes racisées, par exemple, sont affectées différemment dans leur rapport à l'emploi, au transport adapté et plusieurs autres aspects. Il s'agissait d'un défi qu'elle tentait de relever au moment où cette étude est parue. Vous avez aussi fait des recherches sur les mobilisations des femmes handicapées en Haïti. Y a-t-il des différences marquantes entre l'activisme intersectionnel des femmes handicapées en Haïti et au Québec? Est-ce les mêmes enjeux qui sont au cœur de leur lutte? Tous les pays n'offrent pas les mêmes conditions d'existence que le Canada. La situation d'Haïti reflète en partie les conditions d'existence des femmes handicapées dans plusieurs pays du Sud. Ainsi, il est difficile pour les femmes handicapées en Haïti d'avoir accès à l'éducation, puisque l'éducation y est majoritairement privatisée et coûte cher aux parents. Au Québec, nous avons un système d'éducation publique et les pratiques d'inclusion des élèves handicapés sont plus répandues. L'inclusion des filles et des femmes handicapées dans le système d'éducation n'est pas acquise en Haïti. Plusieurs des difficultés que vivent les femmes handicapées en Haïti ont des similarités avec celles soulignées par Action des femmes handicapées Montréal, telles que la violence conjugale et sexuelle, l'accès à l'emploi et la santé sexuelle et reproductive. La pratique des stérilisations forcées est encore présente en Haïti, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays, ce qui constitue l'une de leurs luttes. Les difficultés d'accès à la justice sont également présentes, particulièrement dans le cas des violences conjugales et sexuelles. Les femmes handicapées haïtiennes mentionnent que les policiers ne les croient pas lorsqu'elles dénoncent une agression. De plus, les services de justice en Haïti ne sont pas accessibles. L'accès à des interprètes en langue des signes est inexistant et les membres du système judiciaire ne sont pas formés pour recevoir des femmes handicapées qui souhaiteraient formuler une plainte. La mobilité des personnes se déplaçant en fauteuil roulant est également une différence majeure, puisque les trottoirs sont habituellement occupés par des vendeurs ambulants, qu'il y a beaucoup de trous et presque pas de feux de circulation. C'est un environnement difficile pour les personnes qui ont des incapacités motrices, visuelles et auditives. Enfin, les militantes que nous avons rencontrées en Haïti dénoncent le fait que les femmes handicapées sont exclues des décisions politiques qui les concernent, de même que les politiques publiques concernant les droits des femmes et les droits des personnes handicapées. Ajoutons que les dernières élections en Haïti datent de 2016. Il n'y a actuellement plus de gouvernement élu et le président gouverne par décret. Il est ainsi très difficile de faire avancer les droits dans ces conditions. La situation sécuritaire s'est également dégradée et constitue une grande difficulté pour les personnes handicapées et la population en général. Près de 80% de la capitale, Port-au-Prince, serait présentement sous le contrôle des gangs armés qui kidnappent, violent et rançonnent des citoyens et citoyennes. La population est enfermée chez soi et les femmes handicapées ne font pas exception. Le sentiment d'insécurité est donc une différence majeure entre Haïti et le Québec, ce qui affecte grandement le quotidien des femmes handicapées haïtiennes. Selon les diverses études que vous avez menées ou auxquelles vous avez participé, que pourriez-vous nous dire quant au rôle des alliés des femmes handicapées dans l'avancement de leur cause? Au moment de ma rencontre avec l'organisme Action des femmes handicapées Montréal, elles essayaient de transformer les organisations féministes, les organisations de personnes handicapées et les organisations de minorités ethno-culturelles comme étant des alliés. Elles souhaitaient que ces organisations fassent place à la parole et aux revendications des femmes handicapées dans leurs agendas. Les femmes handicapées cherchent aussi des alliés auprès des institutions. Je participe présentement au projet de recherche GHDI-EDID qui cherche à développer les capacités de recherche des organisations représentant les femmes handicapées pour soutenir leurs demandes auprès des institutions onusiennes et des représentants des gouvernements en espérant contribuer ainsi à changer les politiques publiques. Il y a plusieurs volets au projet GHDI-EDID, soit celui d'Haïti, d'Afrique du Sud, du Vietnam, du Canada et transnational. Je suis responsable de ce dernier volet. Nous étudions la façon dont les représentantes des femmes handicapées expriment leurs revendications dans des arènes de l'ONU. Celles-ci y trouvent des alliés auprès de certains gouvernements, comme celui du Canada et de la Finlande, d'ambassadeurs, de membres de comités de suivi de conventions comme la CPDH et la CEDEF, et des responsables du dossier genre et handicap, comme par exemple à Unifam. L'élément à retenir pour agir en tant qu'alliés des femmes handicapées est d'abord d'écouter leurs paroles et ce qu'elles ont à dire, car comme les autres activistes handicapés, elles veulent représenter leurs intérêts elles-mêmes et que les propositions de transformation proviennent des femmes handicapées comme groupe social ayant des expériences spécifiques. Il est également important pour celles et ceux qui désireraient agir en alliés de s'informer auprès des militantes handicapées et de leurs organisations pour savoir comment soutenir les luttes, car ce sont elles qui savent ce dont elles ont besoin comme action de la part de leurs alliés. C'était « Mieux comprendre la réalité des femmes handicapées par l'intersectionnalité », entretien avec la professeure Dominique Masson, un texte de Virginie Archambault, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Les personnes handicapées victimes de violences conjugales, une réalité malheureusement ignorée, un texte de Julie Montreuil, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. En 2014, le gouvernement canadien publiait des statistiques alarmantes. La proportion de femmes avec incapacité qui ont déclaré être victimes de violences conjugales, qu'il s'agisse d'actes de violence physique ou sexuelle, au cours des 5 années précédant l'enquête, représentait plus du double de celles des personnes sans incapacité, 6,2% contre 2,7%. Dans son plan d'action de 2018-2023, le secrétariat de la condition féminine a fait appel à des projets concernant la violence conjugale. Devant l'ampleur de la problématique, le Carrefour familial des personnes handicapées, CFPH, a développé un projet comprenant 2 volets. Le premier volet était une recherche qualitative auprès des femmes qui ont été victimes de violences pour comprendre les enjeux spécifiques aux femmes en situation de handicap. Un guide pour les femmes et un autre pour leurs proches ont été conçus. Dans le deuxième volet, nous avons créé des capsules vidéo de sensibilisation pour les femmes et leurs proches, ainsi que des formations pour des intervenants et intervenantes. De plus, des travaux sont en cours avec différents acteurs institutionnels et communautaires pour élaborer un moyen de libération de la violence pour les femmes en situation de handicap. Les statistiques démontrent que, bien que les victimes soient majoritairement des femmes, les hommes en situation de handicap vivent aussi plus de violences conjugales que les autres hommes. Le handicap serait en soi un facteur influençant les risques d'être victime. Cette vulnérabilité peut être associée à la dépendance au conjoint dans la sphère privée. Plus la personne est isolée, sans réseau social, sans travail, sans moyens de transport, sans famille ou sans service externe, moins elle a accès à des ressources pour se détacher et devenir autonome. Petit à petit, elle aura tendance à intégrer que la violence est une normalité, ce qui fait place à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des agressions. Ces agressions peuvent être verbales, psychologiques, physiques, sexuelles et financières. Bien sûr, il est important de faire la distinction entre l'utilisation des particularités de la personne handicapée pour garder cette personne sous son contrôle et l'épuisement du proche aidant. Cependant, au-delà de la violence verbale ou psychologique, la violence physique prend aussi des allures de maltraitance ou de négligence. Voici des exemples de violences physiques nommées lors de notre recherche auprès des femmes victimes de violences conjugales. Confisquer ou mettre hors de portée le téléphone, les médicaments ou une aide technique. Refuser de donner le bain, le repas, les médicaments ou ne pas respecter la posologie. Pousser le fauteuil dans une pente ou l'escalier. La violence sexuelle est la moins dénoncée en raison des tabous entourant la sexualité des personnes handicapées. Cependant, elle est aussi présente. Voici des exemples plus spécifiques aux femmes en situation de handicap. Insister ou obliger à avoir des rapports sexuels, même quand l'état de la personne ne le permet pas. Imposer des performances au-delà des limites de la conjointe ou du conjoint. Profiter du fait que la personne ne puisse pas bouger ou se lever pour avoir des rapports sans consentement. Souvent, sous le prétexte que la personne est diminuée physiquement, le partenaire prendra le contrôle des finances en prétextant que la personne n'est pas en mesure de les gérer. Refuser d'acheter une aide technique, une orthèse ou un déambulateur, ce qui permettrait l'autonomie de la personne. Exiger de l'argent en échange d'un transport. Il existe heureusement des moyens de quitter un milieu violent. Le service de police de la ville de Québec a un protocole 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 afin que la personne à mobilité réduite, non transférable, puisse quitter son milieu en situation de crise. Les maisons d'hébergement ont le devoir d'accommoder toute personne qui en a besoin. Dans le cas où une maison d'hébergement refuserait des accommodements pour des services essentiels, veuillez contacter Julie Montreuil au Carrefour Famille Personnes Handicapées au 418-522-1251. L'aide financière d'urgence peut être utilisée pour vous diriger vers un lieu sécuritaire ou pour avoir des soins hors de votre domicile. Vous pouvez consulter des outils dont nos guides et nos capsules vidéo sur notre site web www.cfph.org. Nous pouvons aussi vous accompagner et vous diriger vers des ressources spécialisées. De même, le CFPH offre des formations à toutes les intervenantes et aux organismes pour mieux comprendre la réalité des femmes en situation de handicap dans un contexte de violence conjugale. En tout temps, il est aussi possible de faire appel à SOS Violence Conjugale au 1-800-363-90-10 ou de consulter leur site au https://sosviolenceconjugale.ca/fr. C'était « Les personnes handicapées victimes de violences conjugales, une réalité malheureusement ignorée », un texte de Julie Montreuil, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad.